Bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous allons parler une fois de plus du savoir-être au travail. Aujourd'hui, on va explorer la dimension du corps avec Pierre Guaran. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Retrouvons tout de suite Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du corps. Parler du corps avec des mots, c'est pas toujours évident, parce que je suppose que le mieux, c'est l'expérience. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu quel a été ton parcours de vie ?
Oh, le parcours, il est long. Hein. J'ai 60 ans, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, en France, à l'étranger. Mais ça fait quand même 27 ans que j'ai une carrière de consultant, coach, facilitateur. Il y a plein de mots pour désigner ce que je fais. Au service de la vie dans les organisations, ça prend plein de formes. J'ai passé beaucoup d'années à creuser la question du travail, comment être plus intelligent, moins bête, ensemble, nous les êtres humains. Et voilà, avec une passion pour la facilitation en intelligence collective. J'ai eu la chance d'être un peu au début de ce mouvement qui maintenant a pris pas mal d'ampleur en France.
Justement, ça m'intéresse. Comment tu as découvert ça? Comment c'est arrivé dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à travailler en intelligence collective?
En fait, c'est arrivé dans ma vie très tôt parce que quand je regarde mon histoire, j'étais toujours passionné de cette question du dialogue. Enfin, je pense que le dialogue a beaucoup manqué dans mon enfance. Donc j'ai de tout temps essayé des choses autour du dialogue et je crois que ça a été des rencontres. Pour moi, la rencontre avec Juanita Brown qui avait créé le World Café a beaucoup compté pour moi. Des rencontres avec Marvin Weisbord qui ont créé le Future Search. Et à chaque fois que j'étais avec ces personnes, je me disais, j'ai envie d'être comme eux. Moi, j'apprends avec les gens. Il y a des gens que j'admire. Et je crois que quand on admire vraiment quelqu'un, quand on résonne avec quelque chose chez quelqu'un, on résonne en fait avec une qualité qu'on a en soi, hein. Et qui ne demande qu'à être développé. Donc voilà, j'ai étudié avec... j'ai eu la chance d'étudier avec des gens qui ont été pour moi des maîtres, hein, et que j'essaie de transmettre un peu de leur travail aujourd'hui. Et c'est vrai que plus récemment, je suis passé... je continue mon travail d'intelligence collective, mais il y a cet autre mot qui est l'intelligence somatique, l'intelligence du corps, en fait, qui... est en train de devenir ma deuxième passion, hein, et qui a donné aujourd'hui naissance depuis 7 ans maintenant, un institut qui s'appelle l'Institut Présence et Leadership. On travaille sur cette question dont on va peut-être parler ensemble aujourd'hui.
Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette intelligence somatique? Pourquoi tout d'un coup elle a pris le pas sur le reste? Ou elle est venue compléter, mais j'ai l'impression que t'en fais vraiment... ton cheval de bataille, ta passion?
Oui, parce que je suis quelqu'un qui aime défricher. Enfin, je suis un passeur et j'aime le début des choses. Enfin, j'aime les terrains qui ne sont pas encore complètement balisés. En fait, pendant tout le temps où je creusais cette question de l'intelligence collective, où moi-même, j'essayais de surmonter toutes les peurs et les limites... qui faisait que le métier finalement d'animer des groupes était difficile pour moi. Donc j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour être en mesure de travailler avec les gens comme je le fais aujourd'hui. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, beaucoup très mental aussi. Et je me suis aperçu que en fait tout ce que je faisais en dehors du travail par la danse, par le travail sur la voix, par le travail avec les arts martiaux, en fait, comptait énormément pour moi et a influencé ma pratique professionnelle. Donc, il y a eu tout un chemin personnel qui, pendant de longues années, était séparé. Enfin, c'est comme s'il y avait deux vies. Il y avait une vie au travail pour moi. je travaille beaucoup avec des grandes entreprises. Et il y avait voilà, une autre passion secrète qui est voilà, pour les arts, en fait, les arts du corps, les arts du mouvement, sous toutes ses formes.
Qu'est-ce que tu allais chercher là-dedans ?
Il y a eu plusieurs constats qui m'ont fait, et questions qui m'ont fait progresser là-dedans. Je crois que au début, ce que j'allais chercher, c'est juste arriver à être suffisamment bien dans ma peau. Je me suis aperçu que c'était au début des années 90, par exemple, tous les week-ends, je rentrais du travail. J'étais à l'époque, je travaillais en agence, dans une agence de com. J'étais chargé de grands comptes. C'était une période un peu stressante dans ma vie. J'avais ma fille, un petit bébé dont je devais m'occuper. Je rentrais des États-Unis. J'avais pas mal de stress. Et un week-end sur deux, j'avais des migraines. Voilà. J'avais des migraines. Je passais le week-end sous la couette, hein, et le lundi, bon, je repartais comme en 40. En même temps, j'avais des problèmes de dos. Je perdais ma voix de temps en temps lorsqu'il fallait que j'anime des séminaires qui étaient challengeants pour moi. Et donc un jour, je me suis dit, bon, j'en ai marre de ça, il faut que je trouve des solutions. Donc, ce que j'allais chercher au début, c'était seulement à pouvoir supporter le travail, quoi, à pouvoir fonctionner. Voilà, et là, ça m'a amené dans plein d'explorations, en fait. Ça commençait par l'orthophonie, mais juste le travail de base avec la voix. Ça a commencé par le Qigong, ça a commencé par... un peu de Feldenkrais, assez rapidement aussi. Mais alors, de fil en aiguille, après j'ai exploré ces champs et ça m'a amené beaucoup plus loin. Et après, il y a eu d'autres constats donc, que j'ai fait.
Justement, donc, je suppose que pour continuer dans cette voie, tu as fait des découvertes importantes pour toi. Qu'est-ce que ça a résolu pour toi ?
Alors, d'abord, ça a résolu les problèmes, les souffrances de départ, hein. Et je crois que la souffrance est toujours intéressante, parce que je crois que la souffrance nous met en chemin. Donc moins de mal au dos, moins de migraines, tout ça c'était gagné. Mais il y a eu autre chose. En fait, je me suis senti beaucoup plus moi-même lorsque je pratiquais ces disciplines. Et donc c'était des moments d'intégration pour moi, des moments de plaisir, des moments où je me sentais entier. Et du coup, il y a une nouvelle question.
Comment ça se fait que, par exemple, si tu fais du Qigong, tu rentres dans un cadre, tu fais des gestes qui sont posés, qui sont cadrés.
Oui.
Comment tu peux être plus toi-même en allant dans ces disciplines ?
Peut-être, pour moi, c'est le fait de ressentir mon corps qui a beaucoup compté. Et je crois que c'est la connexion. Être soi-même, c'est se sentir complètement vivant, pas se sentir coupé de soi. Et je crois que la principale coupure dont on souffre, nous, en Occident notamment, enfin je connais surtout l'Occident, hein, mais c'est celle d'être beaucoup dans notre tête, hein, et pas beaucoup dans notre corps. Hein, et même pour certains, pas beaucoup dans les émotions aussi, d'ailleurs.
Et à côté de quoi on passe en étant... pas conscient de notre corps, ou en tout cas relié à notre corps.
Le mot qui me vient, c'est on passe à côté de la vie.
Carrément.
Mais oui. Je pensais qu'en ce moment, j'ai vraiment deux pensées. On cherche toujours le sens de la vie, hein, enfin, nous les humains. Enfin, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Hein. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pour soi. Hein. Et je crois que pour moi, en tant qu'être humain, je me dis, tiens, le sens de la vie, il y a deux dimensions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est celle du dialogue. C'est-à-dire, le sens de la vie, c'est de découvrir l'autre. Nous, on est des humains et on n'est pas des animaux. Et on a à apprendre à être avec les autres. On est les seuls qui devons apprendre à faire ça. Donc ça, c'est... un premier point. Mais je crois que l'autre sens d'être des êtres incarnés sur cette terre, c'est justement d'être incarné dans ce corps. On a tous pris une forme particulière, la forme de notre corps, et d'assumer ceci, de vivre ce corps. Je crois que ça, c'est le deuxième grand défi de l'existence. Donc, c'est un corps qui est à la fois limité et en même temps qui est un monde merveilleux de sensations, de subtilité, de vie vraiment. Et que lorsqu'on n'est pas en lien avec ce qui se passe là, on est où? Ben, on est généralement dans nos pensées. Et généralement dans nos névroses aussi. Voilà. Et donc, à vouloir des choses, à avoir des jugements sur les choses.
C'est vrai, quand tu parles du corps, j'ai l'impression que tu parles de la présence au moment.
Ben oui, oui. Mais parce que notre corps n'existe que là, finalement.
Mais on ne peut pas être présent au moment avec les pensées.
On peut être présent à ses pensées. C'était déjà une chose. Mais la plupart des gens ne sont pas présents au moment dans leurs pensées. Ils sont en train de penser. Ils sont emportés par leurs pensées. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la pensée. C'est magnifique, la pensée. Moi, j'aime beaucoup les pensées aussi. Hein. Les pensées nous emportent.
Par exemple, si je me balade, oui, près de la mer, hein, puisque je suis près de la mer, et j'observe les fleurs, j'observe... Alors oui, je peux sentir avec le corps le vent, je peux sentir le soleil. Oui, parce qu'il y a du soleil en Bretagne. Mais mes pensées sont là quand même. C'est-à-dire que même quand je suis, par exemple, dans une attitude de gratitude, d'observation, j'utilise bien aussi mes pensées. Et même quand je me relie à mon corps, d'ailleurs.
Oui.
Mon corps, en fait, la pensée de « tiens, je ressens quelque chose dans mon petit doigt de pied », est-ce que ce n'est pas un jeu avec la pensée, justement ?
Il est possible de rajouter des pensées, il est possible d'avoir aussi des pensées et être présent. Mais il n'y a pas besoin de penser pour être présent. C'est-à-dire que lorsque tu marches sur une belle plage de Bretagne, je t'envie parce que moi je suis à Paris là, mais j'aime bien déjà l'imaginer par la pensée, hein. Ça me fait plaisir là maintenant, donc je suis dans deux endroits, hein, par la pensée d'une certaine façon, hein. Donc, mais ça c'est l'illusion magnifique de la pensée, c'est superbe. Mais marchant sur cette plage, il n'y a pas besoin de penser, donc, tu peux marcher et retrouver sur la grève, un objet, regarder un oiseau. Il n'y a pas besoin d'avoir de pensée pour être en relation avec les choses. Et il peut y avoir des pensées qui se rajoutent. Tu dis, tiens, je n'ai pas vu un oiseau comme ça depuis longtemps. Ok, ça c'est une pensée, oui.
Alors comment tu amènes donc, tout ce que tu as découvert à travers le corps? Donc tu as dit que tu as fait des arts martiaux, c'est ça aussi?
Oui, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et j'ai commencé avec le judo quand j'étais enfant, mais c'était une très mauvaise éducation. C'était l'éducation, en fait, judo très sportif et qui ratait complètement le côté spirituel du judo. Donc, c'était à se battre les uns les autres, à être le meilleur. Donc, c'était pas très intéressant. Ensuite, j'ai découvert le karaté, le shintaido. Et en ce moment, je pratique assez intensément un art martial russe qui s'appelle le systema.
Qu'est-ce que c'est, le systema ? Jamais entendu parler.
Oui, ben, tu sais, moi, comme je le dis, j'aime bien défricher les choses. c'est, oui, c'est une passion pour le systema. C'est un art qui vient des forces spéciales russes, donc avec un background très, très militaire, hein, vraiment très, très applicatif. Hein, là. Mais qui est un art de principe, qui repose sur trois principes. L'axe, l'alignement, la mobilité et la détente. Et j'aime bien les principes. Je travaille à partir des principes plutôt que partir des techniques qu'on doit répéter. Les principes, c'est merveilleux, parce qu'avec des principes, tu peux créer plein de choses et être libre.
Ça, c'est marrant. Ça paraît paradoxal.
Oui. Mais tu sais, j'avais un jour un prof d'impro qui me disait, quand vous n'arrivez pas à écrire quelque chose, on écrivait des chansons à l'époque, fixez-vous une contrainte. Et si vous, avec une contrainte, vous n'arrivez toujours pas à écrire votre chanson, fixez-vous deux contraintes.
Aujourd'hui, donc, tu interviens toujours en entreprise
Oui, beaucoup.
et tu amènes alors ce travail du corps en entreprise?
Oui, c'est le challenge que voilà que je sur lequel je travaille. Hein. Donc, le corps dans le monde du travail n'a pas beaucoup de place. Il a la place lorsqu'il dysfonctionne. Lorsque les gens ont un burn-out, ah là oui, d'un coup on se dit tiens, on réalise que j'ai un corps voilà, parce que le corps ne veut plus fonctionner.
Quelle forme ça prend quand tu vas en entreprise?
Ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme de vraiment de formation. Une formation qui s'appelle les fondamentaux de leadership, de présence et leadership. Vraiment une formation d'un ou deux ou trois jours. Il y a plusieurs formats. Il y a des conférences aussi. Il y a des ateliers
Mais par
rapides.
exemple, dans cette formation présence et leadership, on parle bien du corps.
Ah oui, non seulement on parle, mais en fait, très rapidement, on ne parle plus beaucoup et on travaille avec nos corps. On travaille beaucoup sur la posture.
Donc ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher? Quel est le but que tu mets au début de cette formation?
Okay. Le but, c'est vraiment de gagner en confiance en soi, de gagner en capacité de percevoir le monde tel qu'il est, de gagner en capacité d'être en relation avec les autres, de façon harmonieuse. Okay.
Et donc, comment tu les amènes, vous faites des exercices corporels?
Oui.
Ça
Ex
ressemble à quoi?
exclusivement corporel. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs dans ces formations, parce que il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Il y a des gens qui ont beaucoup de pratiques spirituelles. Il y en a pour lequel c'est un monde qui ne compte absolument pas. Il y en a qui sont beaucoup dans leur corps, très sportifs. J'ai même des professeurs d'aïkido qui viennent et d'autres qui sont tout à fait mal à l'aise dans leur corps. Il y en a qui ont des niveaux élevés dans l'organisation. Il y en a qui ont des niveaux très on va dire modestes dans l'organisation. Et au bout de justement très rapidement, au bout de 3 quarts d'heure, tout le monde travaille ensemble et tout le monde apprend ensemble. Comment on travaille? En fait, c'est une sorte de laboratoire. C'est un laboratoire de mise en situation où on apprend à percevoir la relation entre ce que je fais avec mon corps, notamment ma posture, et comment je perçois le monde.
Est-ce que tu peux me donner que j'arrive à visualiser, par exemple, des instructions d'une...
Ah ben oui.
Voilà,
Alors,
juste, qu'est-ce que tu fais?
je vais te donner une instruction. Je vais te de demander maintenant, et d'ailleurs, si des gens m'écoutent, ils peuvent le faire en ce moment. Je vais te demander de croiser vraiment les jambes, voilà, de croiser les bras, de froncer les sourcils. Et de penser à quelque chose qui s'est passé, qui t'énerve un petit peu, qui est un peu contrariant, je sais pas.
Attends,
Il y a
on
peut-être
fait
plus
une
rien.
pause, il faut que je
Il y a,
cherche un truc
peut-être plus rien au
contrariant.
mental qui est contrariant pour
Bon,
toi.
en ce moment, dans ma vie, c'est pas très contrarié, donc
Ah, c'est bien ça.
qu'est-ce que j'ai de
Quelque chose
contrariant?
que tu aurais à faire. Voilà.
Non, un truc qui m'énerve, pas un truc qui me fait
Oui,
peur.
bon, voilà, quelque chose qui s'est passé, qui est pas satisfaisant, pas un énorme problème de ta
Ça
vie,
y est,
mais
ok.
voilà, soit ce qu'aller faire les courses au supermarché, quelque chose comme ça peut être suffisamment pour quelqu'un. OK? Voilà, et donc juste d'observer, quand tu penses à cette chose, qu'est-ce que tu te dis, la première, juste pour toi-même, hein, la première pensée qui te vient, La sensation en termes d'émotion, si on a une, et la sensation corporelle, si on a une. Voilà. Et je ne te laisse pas plus là-dedans, excuse-moi de t'avoir infligé ce traitement. Et là, ce que je vais te demander, c'est de reprendre une posture droite.
Ouais.
Voilà. Décroiser les jambes, de prendre un bel inspire par le dos. Et d'expirer en relâchant la poitrine. Et on va le faire deux fois. On reprend un inspire. On allonge un demi-centimètre. Et tu expires et tu penses à quelque chose qui te fait sourire. Voilà. Et maintenant, tu vas sentir tout l'espace qui est derrière ton dos. Comme si tu avais des capteurs dans le dos et tu étais capable, même les yeux ouverts, hein, mais de sentir, ah tiens, il y a de l'espace derrière. Mais pareil, tu sens l'espace sur ta droite. Et maintenant, autant de sensations à gauche qu'à droite. Tu équilibres. Voilà, et, si t'es, et sur cet axe, hein, tu laisses se détendre tout ce qui peut être détendu, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu. Tu laisses se déposer ta langue, tes épaules, ton ventre. Et maintenant, je te demande de regarder, de placer à 2 mètres devant toi la question auquel tu pensais, qui était une contrariété pour toi, et d'observer quelle est la première pensée qui te vient, quel est le mood, hein, et quelle est la sensation physique. Et s'il y a une petite différence, c'est quoi?
Faut que je réponde là.
Si tu veux, si tu veux, s'il y en a une pour toi, mais c'est pas obligé.
La différence, elle est physique aussi, c'est-à-dire ma position n'est pas du tout la même, donc j'ai pas du tout les pensées sont plus légères en fait à la fin du processus.
Ouais.
Elles sont, en tout cas, moi, la première chose qui m'est venue, c'est que c'est beaucoup plus à distance.
Ok. Mais souvent, ce sont ce genre de choses qui sont exprimées par les personnes. Elles disent, c'est moins important, je pense que c'est plus facile, tiens, je pense que je vais y arriver. Il y a des gens qui trouvent tout de suite une solution quand c'est un problème qu'ils doivent solutionner. En fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que notre, et on le connaît depuis la philosophie grecque, hein, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, c'est les pensées justement qu'on entretient à l'égard de ces choses. Donc ce ne sont pas les choses, mais la façon dont on les pense, et la façon dont on les pense est liée à la façon dont on les perçoit. Et là où il y a un étage supplémentaire, c'est que la façon dont on perçoit les choses est liée à l'état d'être de notre corps. Donc tout le travail en fait que je propose, c'est de remonter ce fil et de travailler sur notre état d'être. Tu vois, on pense beaucoup, on parle beaucoup de performance. Hein. Si on pense à la performance, c'est avoir une action juste, hein, quel que soit mon niveau de responsabilité dans une entreprise. Donc l'action juste, lorsque je suis un PDG, c'est peut-être d'acheter ou non telle ou telle boîte, ou de réorganiser mon entreprise, ou d'engager... un nouveau directeur marketing. Bon, et l'action juste, lorsque je suis, je sais pas, au service clientèle, c'est de répondre à un client et solutionner son problème. Bon, l'action juste dépend de la perception juste. Et selon notre état corporel, notre état d'être de façon plus large, nos perceptions sont extrêmement affectées. Et elles le sont en continu tout au long de notre journée. Donc apprendre à réguler notre état, c'est retrouver notre liberté. Et c'est ça que nous enseignons dans ces stages.
Et toi, par exemple, dans ta vie quotidienne, tu as des rituels ou tu as ce genre de choses que tu fais quotidiennement pour te realigner, j'ai envie de dire?
Oui, absolument. Et ce que je fais très très souvent tout au long de la journée, c'est notamment ce processus de centrage dont je t'ai donné quelques ingrédients là tout à l'heure dans cette mini démonstration et qu'on affine. Et tu vois, J'ai médité pendant très longtemps, hein, enfin, je continue, hein. C'est important pour ma vie. Hein. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui soit méditent, soit font du yoga, soit font toutes sortes du tai chi, enfin, toutes sortes d'activités en dehors du travail. Et c'est comme si ça, c'est un monde séparé. Et moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est comment je peux être dans le monde du travail en me sentant dans cette même unité. Et donc, au lieu de cliver encore plus dans ce monde qui est tellement clivant, ma recherche, c'est quels sont les outils qui ne sont pas des gadgets, hein, et qui peuvent vraiment transformer ma vie dans au milieu même du travail, tel qu'il est, avec la pression telle qu'elle est, avec le stress tel qu'elle est. Et la pratique, donc, les pratiques dont on a besoin pour faire ça, ce sont des pratiques qui doivent s'insérer dans la journée de travail, dans tous les interstices. Et justement, créant des interstices, on rompt un peu ce fil continu qui est extrêmement fatigant, ne serait-ce que ça.
Donc, ça voudrait dire, je te laisse m'aider à voir plus clair, oui, que si ces pratiques-là, indépendamment du contexte dans lequel on est, peuvent vraiment alléger notre quotidien, ça veut dire que si c'est qu'une question de regard, de posture physique, ça veut dire que en grande partie on se crée notre stress et notre poids.
Alors on ne crée pas les stimuli, hein, les stimuli viennent de l'environnement. Et face à un stimuli qui peut potentiellement être stressant, on a une première réaction qui est notre réaction automatique, qui est celle de notre être très conditionné. Là, on n'a pas besoin d'y penser, c'est réactif. Et nous sommes des êtres réactifs, et nous sommes des êtres conditionnés par de plein de façons, par notre éducation notamment. Et donc tout le travail consiste à trouver une autre façon de réagir aux mêmes stimuli. Et c'est ça, exercer un choix. Et pour moi, c'est aussi un des aspects du leadership de soi, c'est de choisir face à une situation, quel état d'être, hein, je dois avoir pour y répondre de la meilleure façon qui soit. Et c'est reprendre en fait les rênes de soi-même.
Tu t'es défini comme un défricheur. Tu n'es pas que ça, mais ce mot est sorti. Aujourd'hui, dans les entreprises, venir avec ça, est-ce que les gens se touchent d'ailleurs est-ce qu'ils sont dans leur corps ou est-ce qu'il y a une interaction entre les corps?
Oui, il y a de l'interaction entre les corps. Mais enfin, pour faire ce métier, c'est un art. Hein, c'est un art. Pendant longtemps, je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'il manquait plusieurs choses. Il manquait un langage qui soit approprié avec le monde de l'entreprise. Donc moi, je parle vraiment, quand je suis en entreprise, un langage de performance, un langage... mais où je cherche vraiment à concilier performance et bien-être. Donc, pas traiter du bien-être comme quelque chose de séparé, hein, mais allier les deux. Okay. Donc, je parle le langage de mes clients. Okay. La deuxième chose qui était nécessaire, c'est d'avoir des formes d'exercice qui soient complètement acceptables dans le milieu de l'entreprise. Enfin, quand je dis l'entreprise, c'est les organisations aussi. Hein. Ça, je travaille dans un hôpital, c'est pareil. Hein, et là, il y a des codes. Et donc, il y a des choses que moi, je ne m'autorise pas de faire. C'est-à-dire que je ne vais pas demander aux gens d'enlever leurs chaussures, de se mettre allongés. On pourrait le faire, hein, mais ce n'est pas ce que je choisis de faire. Je choisis au contraire de faire des propositions que les personnes peuvent s'imaginer faire elles-mêmes très, très, très facilement. Et donc, le travail est progressif. Mais tu vois, dans l'entreprise, on se touche, si je peux dire. Lorsqu'on se serre la main, on est déjà en contact. Et je commence déjà par, voilà, par mettre le zoom sur qu'est-ce que ça veut dire se serrer la main. Et donc, ralentir dans notre laboratoire, prendre le temps, mais en fait, d'observer ce que l'on fait de toute façon, mais dont on n'a pas conscience. Voilà. Donc, un langage, des exercices progressifs, ça, c'est la clé. Et trouver une façon à la fois sérieuse et légère de, voilà, de travailler sur ces sujets. Mais en fait, c'est très fun, hein. Moi, je vois, c'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles je fais ce travail. J'ai beaucoup de plaisir à voir les découvertes que font les personnes. Par exemple, on a tout une exploration de ses propres patterns réactifs. Nous avons tous des patterns, des schémas corporels. C'est-à-dire
Comme quoi?
une façon de réagir
C'est-à-dire, tu
à.
peux me donner un exemple?
Oui. En fait, ce sont une répartition des tensions neuromusculaires. Hein. Et nous avons tous des corps différents. Donc, il y en a qui ont tendance à se. Je prends des mouvements très simples. Et je crois qu'il y a eu Action Type
Oui.
que tu as interviewé. Tu vois, et tous ces mouvements d'Action Type, ce sont des patterns. C'est-à-dire que c'est
Ah,
des
d'accord.
mouvements privilégiés, qui sont nos façons de réagir aux choses. Donc, de façon de basculer vers l'avant, vers l'arrière, de se plier, de surengager la tête ou de désengager la tête, de surengager la poitrine ou la désengager. Et pareil au niveau du ventre, des façons de bloquer certaines parties du corps, des façons aussi de s'absenter, c'est-à-dire de perdre d'un coup pouf, des sensations. Voilà, donc ce schéma est un schéma propre à chaque personne. Et donc c'est vrai qu'en Action Type, on travaille beaucoup avec un diagnostic qui est fait par quelqu'un d'autre, par un expert. Hein, et c'est une super méthode. Mais le travail que je choisis de faire, le diagnostic est fait par les personnes elles-mêmes. Donc, je les amène elles-mêmes à faire leur propre diagnostic. Donc, lorsque les personnes découvrent comment, en fait, elles réagissent, mais alors que c'est quelque chose qu'elles font depuis des années, enfin, depuis qu'elles sont enfants pour la plupart. Hein.
C'est invisible.
Et c'est, enfin, elles n'en ont pas conscience, enfin, elles le reconnaissent. Une fois qu'on met de la lumière dessus, et lorsque on les amène face à la même situation, à reprendre une autre posture, où elles découvrent comment c'est pour elles d'être alignées, d'être détendues, d'être stables, d'être spacieuses, c'est très joyeux.
Donc elles découvrent leur pattern et ensuite elles découvrent une autre qui est plus à l'aise ou
Eh bien oui,
plus facile,
elle
d'accord.
découvre comment fonctionner à partir d'un état de flow.
Et qu'est-ce que tu penses que ça va apporter? Imaginons que tu puisses faire présence et leadership avec une organisation dans son ensemble. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant que collectif?
Alors, je vais pas imaginer, hein, je vais prendre en vrai. donc pour les collectifs où il y a un travail important qui est fait avec ces méthodes, et je pense par exemple, tu vois, un cabinet de conseil où ça fait, on a eu un programme sur un an et demi, ou un autre des Big Four même, donc vraiment des boîtes, une boîte très traditionnelle, on va dire, hein. Alors, ce que ça change, c'est d'abord ça change ça change la relation à soi et ça change la relation aux autres. Donc, dès lors que moi je fonctionne à partir d'un état d'être qui est plus spacieux, qui est plus stable, ça change et dans un au niveau émotionnel, dès lors que j'arrive à traiter des challenges en avec beaucoup plus de légèreté et d'efficacité. Donc je gagne, enfin ça change ma façon de travailler individuellement. Lorsqu'on pratique ceci collectivement, ça vient renforcer ces progrès. D'un point de vue très, enfin, pour te donner un exemple très très précis, dans ces deux organisations, on commence chaque réunion par un centrage. Tu vois, il y a un processus que tu connais sans doute qui est de faire le tour météo, le check-in,
ouais.
Hein, donc de faire un tour, bon, comment j'arrive aujourd'hui. C'est énorme, ça, déjà pour un groupe, ça change notre façon d'être ensemble, on ne rentre pas tout de suite dans le sujet, mais on prend la mesure de qui est là et de comment on est. Bon. Mais quand on rajoute en plus le centrage, non seulement on arrive dans un état, mais on décide ensemble de transformer notre état pour être au meilleur de nous-mêmes. Et ça change notre façon d'être intelligent ensemble.
J'ai une dernière question qui est un peu atypique pour ce podcast, mais je sens en filigrane donc la spiritualité. Je pense que tu as même prononcé le mot. Est-ce que c'est intégré à ta pratique? Est-ce que c'est quelque chose de complètement personnel ou est-ce que tu amènes ça aussi dans les entreprises?
Alors, moi, je ne parle pas de spiritualité quand je suis en organisation. Et donc, ça, je le garde pour moi, cette dimension. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est de voir les lectures, comme tu es en train de le faire, hein, les lectures qu'en font les participants. En ce moment, j'ai par exemple beaucoup de gens qui sont très catholiques. Qui viennent, je ne sais pas pourquoi, je suis entouré de catholiques, beaucoup plus qu'avant, ou en tout cas peut-être qu'ils m'en parlent plus qu'avant, peut-être c'est ça. Et donc, ils ont vraiment une lecture chrétienne de l'enseignement que je propose. Les bouddhistes, bon, je suis plus moi, enfin, lié au bouddhisme dans ma pratique, mais ont vraiment une lecture très, très bouddhiste des principes proposés. Ça me ravit, mais ça n'a pas besoin. Je pense que chacun peut le prendre au niveau où il en est. C'est en fait un enseignement très, très libre, parce que le corps, c'est ça qui est magnifique avec le corps, le corps est très concret, est très concret. Et le corps est aussi ce qui nous relie tous. Enfin, on obéit tous aux mêmes règles, hein. Donc on est lié par les lois, hein, les lois de notre corps. Et donc lorsqu'on remet ça au centre, ça nous relie en tant que collectif. Hein, et c'est là où cette dimension peut-être spirituelle de quel est le sens de notre vie, si notre sens de notre vie est aussi de s'incarner complètement, plus complètement. Eh bien, je crois que là aussi il y a une dimension spirituel qui est relié, parce que qu'est-ce que le spirituel sinon la dimension du sens.
Avant que nous attaquions le questionnaire, est-ce que il y a une dimension qu'on n'aurait pas traitée ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, je crois qu'enfin on pourrait pas, moi je pourrais parler de ça pendant des heures évidemment.
C'est ça.
Et comme tu l'as dit au début, le vrai fun, c'est la pratique. C'est ouais. La pratique. C'est ce mode relationnel. En fait, c'est le mode relationnel où notre corps est plus présent. C'est-à-dire où on est plus présent grâce à notre corps. Ça vient comme illuminer les choses. Je le vois sur le visage des participants, finalement, à la fin des séminaires, enfin, dès la première demi-journée, c'est comme s'il rayonne plus, c'est tangible. Et ça, c'est très goûteux.
Bah juste après ce podcast, je vais faire ma gym, donc je comprends. J'en vais 4 heures par semaine et c'est vrai qu'en fait, ça a un effet sur l'esprit, sur notre disponibilité, c'est fou. Donc même quand on est fatigué, aller... aller se connecter justement avec toutes les parties de son corps, là, c'est... J'y crois, Pierre.
Yes.
Alors, je te propose de passer au questionnaire avec la toute première question, qui est... J'aimerais bien que tu nous racontes une histoire d'un moment dans ta vie où tu as échoué, si on regarde ça de l'extérieur, et en fin de compte, une expérience qui t'a beaucoup appris et fait avancer.
En fait, quand j'ai lu la question, m'est revenu tout de suite un épisode qui date d'il y a très longtemps, où, à l'époque où j'étais ingénieur du son, et je travaillais dans un studio pour un monsieur qui s'appelle Philip Glass aux États-Unis, à New York. Et il m'avait demandé de... J'avais des bandes. C'était à l'époque, on était en pré-digital et on était donc... on enregistrait sur, en analogique sur 24 pistes. Et il y avait une opération qui consiste à enregistrer une bande témoin au début d'un enregistrement pour calibrer les machines. Et là, ça n'avait pas été fait. Donc, les gens avaient enregistré des chansons, un grand morceau. Et il m'avait demandé d'enregistrer ces bandes au début. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appuyé donc les 24 pistes sur le mode enregistré. J'ai enregistré ces tonalités. Et normalement, l'enregistrement doit durer entre 30 et 1 minute. Et j'ai été distrait. Et 1 minute 30 plus tard... J'ai découvert que j'étais en train d'enregistrer sur ce qui avait été enregistré par le groupe. Des semaines de travail.
Le stress que ça doit procurer.
Et donc, c'est une erreur que j'ai commise. Et voilà, évidemment, le plancher s'est ouvert, je suis tombé dans un abîme. C'était la plus grande honte de ma vie. Et dont j'étais entièrement responsable, hein, à 100% évidemment. Et je crois que j'ai perdu ce job. J'ai perdu ce job parce que c'est, voilà, quand on fait quelque chose comme ça, il n'y a pas d'excuse. Hein, c'est,
ouais.
J'ai continué ce métier après, mais pendant quelques temps. Mais je crois que ce que ça m'a appris, c'est de survivre à la honte.
Survivre à la honte, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu as appris de ce moment de honte?
Mais c'est-à-dire que ce n'est pas la mort. Parce que sur le coup c'est la fin du monde.
Ouais.
C'est vraiment, y a aucun endroit où se cacher. Et moi, je voudrais être vraiment le plus petit, je voudrais disparaître, vraiment. Et ce n'était pas possible, enfin bon. Et voilà, donc émotionnellement, c'était très fort. Mais je crois que, voilà, survivre à l'erreur, c'est important. Ça ne me quitte pas, je pense, dans le métier que j'ai fait après de facilitateur, où moi, je vois bien beaucoup de facilitateurs ont peur de faire mal les choses. Et c'est bien d'essayer de faire bien les choses, hein, je ne dis pas ça, mais ils veulent faire plaisir à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc je crois qu'accepter de ne pas faire plaisir à tout le monde, ou même accepter vraiment de se planter, ça donne de la liberté.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil, en dehors de ceux qu'on a pu développer, qui t'a marqué dans ton parcours?
Oui, enfin, c'est dur de dire une seule. Hein.
J'imagine.
Je crois que... en tant que consultant, il y a le cadrage de la demande par Dominique Berriot qui a été très important.
Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
C'est le début de l'approche, de l'approche systémique d'un monsieur qui s'appelle Dominique Berriot. C'est un Français, donc j'aime bien aussi honorer les approches françaises, moi qui me nourris aux sources américaines. Et c'est une méthode très très précise pour comprendre la demande qui est faite, afin d'y répondre pas à la lettre, mais avec intelligence, c'est-à-dire y répondre à ce qui fait vraiment sens et pas à la demande solution qu'on voudrait nous soumettre. Voilà, donc ça c'est la première chose qui me vient. Et la deuxième, c'est tout ce qui touche au dialogue. Mais qui n'est pas vraiment qui est aussi une méthode de cercle de dialogue qui m'a beaucoup influencé. Et il y a une troisième chose qui me vient, et peut-être c'est quelqu'un que tu as enregistré, c'est l'approche de Stéphane Dieutre, l'approche à Aristote.
En fait, j'ai une interview vidéo de Stéphane et j'ai une interview podcast de Stéphane.
Voilà, et ça, je vous recommande vraiment. Je crois que c'est la dernière en date pour moi. Autant le cadrage, c'était pour moi il y a 20 ans que j'ai découvert ça. Et l'approche Aristote de Stéphane Dieutre, je l'ai découverte qu'il y a 2 ans. Et vraiment, ça a changé. Ça m'a encore fait passer un stade dans ma vie. Et m'a fait énormément gagner en appréciation de moi-même.
Donc en tant que participant.
Oui, alors je l'enseigne maintenant, puisque je travaille avec Stéphane sur certains dossiers où justement on combine nos approches. Hein. Mais j'en ai eu vraiment des gains personnels que je n'attendais pas. Vraiment. Mmh. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ça fait 25 ans. Et je ne croyais pas pouvoir vraiment changer encore ma relation à moi. De façon aussi profonde.
Question suivante. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors, je vais être biaisé. Hein. Pour moi, c'est la perception juste. C'est prendre le temps de percevoir avec le plus de justesse possible la réalité des choses. Plutôt que être dans sa tête, être dans ses principes, courir après ce qu'on nous a dit qu'on doit faire, après des modèles, après être en réaction avec les choses. Donc c'est ce recul, c'est pas seulement pour un manager, mais je pense que lorsqu'on a la responsabilité d'emmener des personnes quelque part, hein, je crois qu'on a cette responsabilité de percevoir avec justesse les choses pour avoir ensuite une action juste.
Y a-t-il un livre que tu conseillerais à la lecture?
Alors, il m'en vient deux. Donc, pour des managers débutants, débutants, pas forcément débutants, un livre de base qui vient de sortir, mais c'est le dernier livre de Dominique Berriot, voilà, qui a pris sa retraite et qui s'appelle « Le guide systémique du manager d'équipe ». Donc, il est très pratique, très, très pratique. C'est uniquement à partir de situations de management. Et tout à fait à l'opposé, et peut-être plus pour des managers qui ont la responsabilité de créer leur organisation, enfin, ou des postes de grande responsabilité dans une organisation. C'est Reinventing Organization, le livre de Lalou, qui a été traduit en français et qui est pour moi un des rares livres sur l'organisation de ces 5 dernières années que j'ai trouvé inspirant. Il n'y en a pas beaucoup.
Et alors, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire?
Oui, il y en a une qui me guide beaucoup dans mon travail. Pour changer le monde, il faut changer la façon dont on parle et dont on écoute. Et c'est d'un monsieur qui s'appelle Adam Kahane.
Kahane?
Kahane. Ça s'écrit K-A-H-A-N-E. C'est un ancien de Shell qui a beaucoup travaillé notamment en Afrique du Sud au moment de la transformation de l'apartheid. Okay.
Je sais que tu as un nouveau site internet, donc c'est sûrement le meilleur moyen de te rentrer en contact avec toi.
Oui, alors aller directement sur l'aspect présence et leadership, c'est www.presenceleadership.net.
Et pour finir, on a pris notre temps, c'est bien. Pour finir, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
Oh, vraiment, il y a une intention qui est d'ailleurs une des pratiques hein, que je propose, qui est vraiment de renouveler, de clarifier, de renouveler son intention chaque jour. Hein. Et la mienne est vraiment de pouvoir diffuser cet enseignement sur l'intelligence du corps dans tous les milieux, dans toutes les sphères de la société. Souhaite-moi ça, je veux rien d'autre.
Mais je crois avoir vu qu'en plus tu étais intervenu, quand tu dis toutes les sphères, je pense à la politique, je pense toujours à la politique, mais tu es intervenu lors de ce grand séminaire dont on a entendu parler beaucoup à la radio au tout début du mandat d'Emmanuel Macron dans La République En Marche.
Bah, oui, il se trouve que j'ai animé avec des enfin, conçu et animé le séminaire de rentrée des 300 et quelques députés de La République En Marche.
Les députés de La République En Marche. Ah oui, c'est étonnant. Donc vraiment, tu y vas déjà dans toutes les sphères.
Oui, on a fait un petit peu travailler avec le corps, mais à peine. Je voulais les faire marcher beaucoup plus.
Ils n'ont pas voulu marcher, mais c'était cette histoire, c'est leur slogan.
Je crois qu'il va y avoir des étapes. Voilà. Il faut être patient.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très enrichissant. Et puis, j'ai hâte de voir vers où tu vas et de te voir dans toutes les sphères de la société, bien sûr, puisque ton vœu va être exaucé, bien évidemment.
Merci, Johanna, et merci pour ce beau travail que tu fais.
Il faut que je vous fasse une confidence. Je n'ai pas toujours habité en Bretagne. Regrettable erreur. Non, j'ai parcouru le monde et j'ai également habité pendant 10 ans à Paris. Et un jour, je mangeais chez Sol Semilla, accompagné d'Alexandre Jost, qui a créé la fabrique Spinoza. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Guaron, qui est rentré à ce moment-là et connaissait Alexandre, qui me l'a présenté. Pierre m'a donné sa carte de visite, et puis je l'ai recroisé ici et là. Mais en fin de compte, ce podcast, cette conversation, c'est notre première vraie conversation ensemble, et c'est un plaisir de le partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un podcast qui n'est pas encore enregistré. Donc, tant que c'est pas dans la boîte, on ne sait pas. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine en tout cas. Bonne semaine à toutes et à tous.